Bonsoir. Bienvenue, donc nous accueillons ce soir Jean-Marc Hoffner et Gilles Pinson pour présenter l'ouvrage L'impossible pouvoir local, point d'interrogation, sous-titré Des nouvelles marges de manœuvre pour l'action publique urbaine, édité dans la collection Documents chez l'éditeur Le Bord de l'eau. Jean-Marc Hoffner donc, et Gilles Pinson. Jean-Marc Hoffner, aujourd'hui presque en départ de l'agence d'urbanisme, on va peut-être prendre l'usage de se tutoyer parce qu'on se tutoie en vrai, donc on ne va pas faire comme à la radio, que tu quittes après quelques années passées. Et dont, après un parcours où tu as fait des allers-retours entre le monde de la recherche et le monde de l'action publique, après avoir essuyé tes culottes d'étudiant aussi bien en sciences de l'ingénieur que dans les sciences humaines, voilà, et puis avec aussi conservé une passion pour l'édition, et notamment la revue Cambo que tu as publiée à l'agence d'urbanisme. Gilles Pinson, donc, professeur de sciences politiques, à Sciences Po Bordeaux, après avoir aussi pas mal flirté avec Lyon, avec Saint-Étienne, donc un autre bord de l'Hexagone, et donc qui aussi a beaucoup travaillé sur la médiation des savoirs, notamment à travers le Forum Urbain, et puis qui a aussi travaillé avec l'action publique, je pense, le travail bien connu sur la data que tu avais pu mener. Et donc vous êtes pour l'un à faire l'ouverture et pour l'autre à faire la conclusion de cet ouvrage et d'avoir finalement dirigé cet ouvrage. Alors, cet ouvrage, c'est quoi sa question principale? Et je pense que Gilles y reviendra, je la suis notée, c'est les pouvoirs urbains ont-ils encore une marge de manœuvre pour décider du sort des territoires qu'ils gouvernent et y changer la vie? Donc un joli programme, une belle question, on va réserver pour l'instant la réponse. Mais dans quel périmètre on va situer cet ouvrage? Alors, c'est un ouvrage sur le local, mais pas sur le localisme, hein, pour deux raisons. Alors, ça ne va pas être une chronique sur la vie bordelaise, hein, pour ceux qui voudraient écouter ça, bon, c'est peut-être pas tout à fait le bon ouvrage. C'est pas non plus un ouvrage sur le local qui ne traite que de questions qui n'intéresseraient que les territoires. Je crois que toute la portée de ce livre, c'est finalement de porter un peu plus globalement la question urbaine et de lui donner toute sa dimension sociale. Et pourtant, vous êtes des acteurs locaux. Alors, mais pourtant, quand même, je vais rassurer ceux qui nous suivent, pour l'un, un portrait dans Libération, pour l'autre, son ouvrage recensé comme les essais de la rentrée parlé au sein des Inrocks, Le Bord de l'eau. Finalement, on lit beaucoup plus la recension de leurs ouvrages dans Le Monde ou sur France Culture que dans des médias locaux. Donc, ça va. Où est le cool, comme diraient les Inrocks? On est bien sur du sujet qui va dépasser les frontières du local. Alors, du coup, est-ce que c'est un truc d'un télo anywhere là, qui viennent de nulle part, qui ne sont ancrés sur aucun territoire? Non, quand même. Enfin, bon, on est quand même ancré sur des sujets et sur des expériences et sur des terrains qui sont, pour l'ensemble des auteurs, bien ancrés sur le territoire. Mais quand même, c'est pas non plus une pensée mainstream, même si on voit un certain nombre de mots-clés de la pensée contemporaine. Je pense néolibéralisme, on voit aussi transition, etc. Mais quand même aussi une forte réticence au copier-coller. Donc on ne va pas être sur une pensée finalement assez conforme. Voilà. Donc qu'est-ce que c'est que cet ouvrage punk? On va voir. Peut-être Jean-Marc Hoffner pour commencer, peut-être nous raconter un peu la genèse et puis l'ambition peut-être qui vous a amené à vouloir proposer avec Gilles ce livre.
Alors au départ de cet ouvrage collectif, il y a un colloque. Il y a un colloque, à savoir l'anniversaire de l'agence d'urbanisme fin 2019, les 50 ans de l'agence. Anniversaire, c'est toujours un bon prétexte pour essayer de faire des choses un peu intéressantes, de mobiliser des intervenants, un public. Et les agences d'urbanisme, elles ont un problème existentiel depuis 50 ans et un peu plus maintenant, parce que ce sont des structures bizarres, personne ne comprend comment ça marche, personne ne sait si c'est public ou privé, si on a des chefs ou pas, si on est indépendant ou prêt à subir les foudres de nos financeurs, et à quoi on sert. Et donc, c'était une bonne occasion d'essayer de mettre en évidence ce qui peut être un des atouts des agences d'urbanisme, et de la URBA en particulier. C'est à partir d'une impression quand même de malaise dans le pouvoir local, un malaise dans le pouvoir local autour soit de l'idée qu'il y a beaucoup de contraintes, des contraintes parce que l'État est méchant, parce qu'il n'y a plus d'argent, parce que tout le monde dicte ses lois à tous les niveaux, parce qu'il y a des normes techniques. Donc cette idée quand même que le local subirait le système finalement. Hein. Et puis aussi une impression que je ressens peut-être plus en tant que technicien, pour le coup d'un copier-coller, que tout le monde finalement fait à peu près pareil au même moment, sans en ayant forcément conscience d'ailleurs. Hein. J'aime bien la métaphore des prénoms. Vous savez, quand on choisit un prénom, on pense toujours que c'est un prénom hyper original. Et puis, 5 ans après, à la maternelle, la moitié de la classe porte ce prénom. Voilà. La végétalisation des cours d'école, c'est un peu ça. Voilà. Y a un mouvement, en fait, général de mimétisme. C'est très bien de faire ça, mais pourquoi tout le monde en même temps? Pourquoi ceux qui l'ont proposé avant n'ont pas eu de succès? Voilà. Donc, c'était un peu cette idée de plutôt mettre en avant ces contraintes subies ou d'une certaine façon reçues sans ménagement particulier, et de dire oui, il y a des contraintes, mais l'action publique locale, c'est important. C'est là où peut se passer beaucoup de choses en matière de transition, comme on dit maintenant, pour trouver un mot simple. Et oui, il y a des marges de manœuvre. Mais pour connaître ces marges de manœuvre, il faut d'abord connaître les contraintes. Et les agences d'urbanisme, qui sont peut-être un peu moins dépendantes justement de tous les circuits de diffusion des modèles, de toutes les circulations de méthodologies, peuvent essayer d'ouvrir, comme je dis souvent, l'éventail des problèmes et des solutions. Voilà. Et que c'est une ambition politique, mais qui a besoin du technique pour se concrétiser.
Et du technique quand même, parce qu'on ne l'a pas dit, mais sur la structure, donc c'est un ouvrage, un recueil de cette contribution, outre votre introduction et votre conclusion, de cette, un peu plus, hein, puisque certains papiers sont signés à deux voix, d'une petite dizaine de chercheurs, et finalement relativement jeunes, hein, du monde de la recherche, hein, pour l'essentiel. Voilà, pourquoi aller chercher du côté du monde de la recherche, justement, cette description des contraintes, enfin, puisque je pense que c'est quand même quelque chose aussi, y compris qu'en tant que technicien, vous défendez enfin, ce lien entre eux, et que Brigitte Fouillant a aussi redit en vous reprenant, ce lien et ces allers-retours entre le monde de la recherche et le monde de l'action. Peut-être dire un peu comment vous êtes allé chercher ces équipes, et d'où ils viennent, et qu'est-ce qu'ils apportent, et qu'est-ce que la recherche, de manière générale, peut apporter à l'action publique locale.
Alors, ce sont des chercheurs qui, comme je dis trop rapidement, qui s'intéressent à la vraie vie, c'est-à-dire qui ont eu, à travers leur thèse, des terrains d'enquête qui les obligeaient à, pour reprendre cette formule, plonger les neurones dans les boîtes à outils méthodologiques. Hein. Huré sur la question, par exemple, des nouveaux modes de transport, sur ce que ça dit en termes de détermination par les systèmes techniques, des techniciens chercheurs comme Dormois, qui s'intéressent à la finance. On a quand même souvent des profils qui sont rares de personnalités qui sont à l'interface. Nicolas Rio, qui a fait une thèse avec Gilles et qui est maintenant consultant, mais un consultant autonome qui est, on pourrait dire, presque un consultant chercheur. Voilà, donc on a recherché plutôt effectivement des chercheurs ou des techniciens étant passés par la recherche, ayant les capacités et le temps, et c'est souvent une histoire de temps aussi, à aller un peu loin dans le décortiquage, parce que je crois beaucoup au fait qu'il faut effectivement aller loin dans un dans l'ouverture des boîtes noires pour dire des choses intéressantes et ensuite s'affranchir de ces boîtes noires qui surdéterminent un peu trop si on ne prend pas le temps de les ouvrir.
Et effectivement, du coup, quand même, enfin, il y a au cœur cette idée qu'on s'appuie, ce que vous dites, sur des faits, enfin, sur cette sortir un petit peu de politique publique construite exclusivement autour de l'intuition ou de la circulation des idées, mais quand même, ce rapport à la connaissance, c'est quelque chose quand même qui est défendu là dans ce travail, et on sent qu'à l'intérieur, il y a un certain nombre de données qui viennent effectivement décortiquer la complexité, mais avec du fait. Enfin, ça, c'est quand même quelque chose que vous trouvez, y compris dans des démarches d'observatoire, assez important dans le travail sur l'urbain.
Oui, oui. Alors, je crois même que quasiment dans les lois qui ont créé les agences d'urbanisme, on parle pompeusement d'éclairer la politique publique, de mettre en harmonie les politiques publiques, une espèce d'ambition surnaturelle par rapport à la manière dont se déroule l'action publique. Mais c'est vrai qu'on... Alors je ne sais pas si on est les derniers défenseurs à la fois de la recherche qui va sur le terrain, qui produit des informations, qui fabrique des nouvelles données. Dans les agences d'urbanisme, on fait effectivement ça aussi. On est très soucieux de documenter les sujets, de mettre en discussion les informations qu'on peut produire à travers les observatoires, par exemple, en considérant qu'une donnée, une analyse n'est intéressante que si elle est discutée, donc appropriée, finalement.
Donc peut-être, pour revenir vraiment au cœur de la question, sur donc l'impossible pouvoir local, point d'interrogation, et là peut-être la question va passer à Gilles Pinson, puisque quand même Jean-Marc Hoffner a commencé à esquisser sa réponse. Donc oui ou non, y a-t-il des marges pour le pouvoir local, puisque c'est ça donc le sujet et la question que vous posez, y a-t-il des marges de manœuvre pour le pouvoir local, oui ou non?
Oui.
Bon, merci, on va terminer la conférence.
Alors, avant de revenir sur cette question, peut-être que revenir sur le pouvoir local, sur ce que c'est, et puis peut-être émettre un regret, je me suis rendu compte en relisant le bouquin, pour l'occasion, un peu travaillé, qu'en fait, on n'avait pas du tout fait retour sur... une vieille tradition bordelaise d'analyse du pouvoir local. C'est-à-dire que aujourd'hui, ces références sont un peu oubliées. C'est dommage parce que voilà, dans les années 80-90, Bordeaux, et notamment un laboratoire qui s'appelait, qui était mal nommé le CERVEL, un centre d'études et de recherche sur la vie locale, était un vrai lieu de bouillonnement sur ce questionnement sur le pouvoir local. Et je me souviens même d'un bouquin, je ne sais plus s'il était... dirigé par Albert Mabillot ou Jacques Lagroix, mais enfin voilà, qui sont un peu les deux grandes figures, avec Claude Sorbetz aussi, d'analyse du pouvoir local à Sciences Po Bordeaux, un bouquin qui s'appelait La question locale. Donc en fait, cette question, elle est assez ancienne. Et alors, la question du pouvoir local, on peut se la poser de deux manières. C'est-à-dire, on peut se la poser d'abord sous l'angle de l'autonomie locale. C'est-à-dire, est-ce que des acteurs locaux, qu'ils soient collectivités, municipalités, intercommunalités, les agences, ou même des acteurs économiques ou sociolocaux, ont une prise sur le devenir d'une ville, de leur territoire. Et ça, c'est une vraie question, une vieille question qui a fait l'objet d'oscillations au cours de l'histoire. On part quand même de très loin, hein, parce que la Ve République est quand même un grand moment de refoulement des pouvoirs locaux à une fonction très subalterne. Et puis, donc on parle à l'époque de pouvoirs périphériques, pour dire qu'en gros... les acteurs locaux ont un pouvoir, mais un pouvoir qui est quand même assez résiduel, qui consiste à amender à la marge l'action de l'État, qui est le vrai acteur des politiques urbaines dans les années 50, 60, 70. Et puis, bien entendu, avec les réformes de décentralisation, la donne change un peu. Et alors, justement, il y a eu des grands débats dans les années 80-90 impliquant des chercheurs bordelais sur la question de savoir si on pouvait parler de gouvernement local. Et Albert Mabillot, notamment, disait ben non, ça n'a absolument aucun sens. On peut parler à la limite d'administration locale, ce qui induisait quand même le rôle assez fort de l'État. Et puis des nouveaux chercheurs, notamment Patrick Le Gallès, ont commencé à dire ben non, regardez, avec la décentralisation, on voit des marges d'action qui se libèrent. Et on commence alors à parler de gouvernement urbain, puis de gouvernance locale. pour signifier quand même ce fait que, voilà, aujourd'hui, donc on se situe dans les années 80-90, l'État n'est plus le seul qui est capable de définir les problèmes urbains et apporter des solutions et à mobiliser une ingénierie. Voilà. Donc les années 80-90 sont la grande époque où ce pouvoir local est largement revalorisé, relu sous un autre angle. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'à partir des années 2000, on a encore une autre oscillation. C'est après le retour des villes, c'est le retour de l'État. Et c'est vrai que depuis 20 ans, on sent que l'État, un peu désarçonné par la décentralisation, est en train subrepticement de retisser sa toile d'araignée pour contraindre, structurer l'action des pouvoirs locaux. Voilà. Donc tout ça pour dire que c'est une vraie question, une vieille question qui n'est pas réglée. Puis il faut bien entendu ajouter toutes les forces structurelles qui contraignent l'action d'un maire ou d'un président de métropole, le marché, des sociétés qui sont de plus en plus mobiles, des capitaux qui sont de plus en plus mobiles, des contraintes techniques réglementaires qui sont de plus en plus fortes. Donc ça, c'est la première question. Est-ce qu'il y a une autonomie locale? Et en fait, poser cette question, c'est comme poser la question pour un État. Est-ce qu'un État est complètement libre de ses politiques publiques? La réponse, elle est forcément nuancée. C'est oui et non, c'est oui, mais. Et pour le pouvoir local, c'est pareil. Puis alors, il y a une deuxième question, c'est sur le pouvoir local, c'est où est-ce qu'il réside, à qui il appartient, comment il se constitue, comment l'étudier. Est-ce que le pouvoir local, en tant que pouvoir d'agir, c'est le fait uniquement des administrations? Est-ce que comme on l'imagine un peu trop vite en France, les maires sont tout puissants avec leur administration derrière, et puis aujourd'hui les présidents de métropole? Ou est-ce que la capacité d'action d'une ville, elle se comprend de manière un peu plus complexe en regardant tout ce qui évolue autour des administrations municipales et intercommunales? Est-ce que les acteurs économiques participent à construire un pouvoir local, une capacité d'action locale? Est-ce que la société civile participe à ça aussi? Est-ce qu'il y a des mouvements sociaux qui participent aussi à stimuler l'innovation locale? Donc voilà, c'est des vraies questions, des vieilles questions qu'il faut toujours remettre sur le métier parce que le contexte change. Mais pour répondre à ta question, oui, il y a des marges de manœuvre. Oui, comme disait Jean-Marc, il y a des logiques d'imitation. Alors c'est vrai que parfois, on entend souvent dire qu'on se balade à Nice, à Bordeaux, à Rennes, c'est les mêmes paysages, c'est les mêmes enseignes, c'est les mêmes types d'espace public. Bon, oui, et puis non. Quand on regarde un peu plus en détail, quand on regarde un peu la manière dont est régulé le secteur du logement ancien, c'est pas la même chose à Bordeaux, à Marseille ou à Rennes. Quand on regarde l'action en matière de logement social, c'est pas non plus la même chose. Et puis, certes, il y a des imitations, mais pour qu'il y ait des imitations, il faut aussi qu'il y ait des pionniers. Alors moi, je prends toujours l'exemple qui me fait beaucoup rire, surtout quand on est à Bordeaux, du tramway. Les Bordelais, étant un petit peu auto-centrés, pensent qu'ils ont inventé le tramway moderne. En 99, 2000, voilà. Bon, moi qui suis nantais, je le rappelle toujours, ben non, le tramway moderne, il a été réintroduit par les Nantais en 83. Ça fait quand même... Voilà, et à l'époque, quand les élus de gauche nantais, en 77, essayent de pousser en avant la question du tram, ils se heurtent à l'administration municipale qui n'en veut pas, parce que c'est pas moderne, à l'administration de l'État qui veut faire une autoroute urbaine, là où les élus de gauche veulent faire un tram. Donc à l'époque, c'est une vraie politique de transport populaire, opposée à la logique de la voiture. À l'époque, moi, on m'a souvent dit ça, j'ai jamais vérifié, Jacques Chaban-Delmas ne veut pas du tram, parce que le tram, ça fait Pays de l'Est. Ça fait Prague, ça fait Varsovie, c'est pas un truc moderne. Donc il veut son métro. Bon, et puis qu'est-ce qui se passe 20 ans plus tard? Ben, on se rend compte que le tram, ça sert pas uniquement à transporter des personnes, ça sert aussi à valoriser les marchés immobiliers, à refaire de l'urbanisme, à piétoniser, bref, à gentrifier. Donc, dès lors qu'on découvre ça, ben, la solution du tram devient beaucoup plus acceptable pour des élus de droite. Et donc, là, on voit une logique de dissémination, de d'imitation. Mais au départ, il ne faut jamais oublier qu'avant les logiques d'imitation, il y a quand même des pionniers qui innovent et qui dégagent des marges de manœuvre pour faire avancer des solutions qui sont refusées par la majorité au départ.
Donc finalement, c'est un peu ce que tu développes dans l'introduction sur le fait qu'il y a des marges de manœuvre, mais encore faut-il vouloir les actionner. Et de ce point de vue-là, et je le reprenais là dans l'ouvrage, tu identifies quand même un certain nombre de facteurs de frein qui vont limiter cette volonté. Je les cite là, la réticence idéologique, l'essoufflement des agendas, ce que tu finalement évoques après sur les pionniers, mais une fois que le pionnier a fini, s'essouffle. sur l'absence de vision et d'idéologie et la déconnexion des élus avec la société et l'administration. Je ne sais pas si tu veux un peu compléter de ce point de vue-là et donner quelques exemples de ce que effectivement il y a un certain nombre de facteurs qui peuvent venir jouer sur cette volonté.
Ouais, l'exemple, enfin, peut-être que je peux développer sur la question de la volonté politique. Enfin, c'est un peu une tarte à la crème, mais pour pouvoir avoir une marge d'action, autant faut-il vouloir l'avoir. Or, depuis le début des politiques urbaines, bon, les politiques urbaines, on considère qu'en gros, ça correspond à peu près à l'époque de la fin du 19e siècle, où, confronté notamment à la question du logement insalubre, eh bien, un certain nombre de pouvoirs locaux décident d'intervenir sur le logement, sur les taudis. Et tout ça, ça implique de faire quoi ? Ça implique de déranger les logiques de la rente foncière, déranger les logiques de la propriété immobilière, ce qui, à l'époque, est parfaitement iconoclaste dans un univers qui est dominé par le libéralisme. Donc, déjà, pour faire des politiques urbaines, il faut quand même vouloir s'affronter à ces forces-là, à ces forces du statu quo imposées par l'hiérarchie sociale, par le marché, par la propriété privée. Voilà. Et bon, pour reprendre l'exemple de Bordeaux, pendant très longtemps, l'interventionnisme en matière de logement, l'interventionnisme en matière urbanistique à Bordeaux était très faible parce que prévalait quand même une logique très libérale, alors, pour le coup pas néolibérale, mais plutôt libérale, consistant à dire on va pas trop mobiliser l'administration municipale pour aller à l'encontre des logiques du marché, pour aller à l'encontre des logiques des propriétaires fonciers et des propriétaires immobiliers. Donc voilà, pendant très longtemps, alors je sais que ça détonne un peu dans un récit local qui dépeint Alain Juppé en grand visionnaire capable de bouleverser sa ville, c'était plutôt un logiciel libéral qui prévalait à Bordeaux. Et quand on comparait ça avec les politiques du logement qui pouvaient être mises en œuvre à Rennes ou à Lyon, on était vraiment à des années-lumière. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, capacité d'action, les ressources de l'ingénieur, elles existent, mais encore faut-il qu'il y ait une volonté politique de les mettre au travail et de les mettre au service d'un projet politique.
Alors, on cite beaucoup d'exemples français, hein, et bon, déjà on voit qu'on quitte Bordeaux, on cite Lyon, on cite Rennes, etc. Il y a quand même aussi beaucoup d'incursions internationales. Alors, je sais pas si Jean-Marc, tu veux en dire quelque chose, mais Gilles, au moins, enfin, effectivement, il y a beaucoup de terrain, parce que tu l'as peut-être pas dit non plus, Gilles, sur l'origine et la genèse de ces interrogations sur le pouvoir urbain. Il y a quand même aussi beaucoup d'exemples, effectivement, aux États-Unis, au Royaume-Uni, enfin, Royaume-Uni que tu connais bien, peut-être, évoquer le fait que c'est un phénomène aussi quand même relativement international. Enfin, cette interrogation, elle est quand même aussi internationale. Et c'est enfin en ça pour dire que l'ouvrage dépasse un peu le simple sujet de la question locale française. Et donc ce rapport à l'international, enfin, et l'un et l'autre, je ne sais pas si vous voulez en dire deux mots.
Juste un mot pour réagir sur ce que Gilles disait. Effectivement, c'est quand même un grand moment très particulier, ces années Grenoble, Nantes, le Parti socialiste, Changer la vie, changer la ville, où à la fois des milieux techniques dialoguent avec des milieux politiques, une doctrine au sens fort et ambitieux du terme s'élabore. Il y a effectivement des classes ou des catégories sociales qui apportent du grain à moudre dans ces trajectoires. Ça pèse lourd, ça. Voilà. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est un peu ce qui manque. C'est-à-dire on peut avoir des projets, des points de vue, etc., mais pas forcément une doctrine suffisamment constituée par une communauté à la fois technique, politique, citoyenne, qui porte un projet de société, entre guillemets, derrière ça. Et pour placer des citations que j'aime bien par rapport à ça, parce qu'il y a un peu la question, est-ce que c'est de la faute du politique, entre guillemets, hein? Est-ce que c'est le politique qui ne se saisit pas, qui ne veut pas se saisir, qui n'a pas envie de se saisir, est-ce que le roi est nu, finalement, hein? Il y a deux maires de Bordeaux qui ont dit deux choses qui finalement m'étonnent. Il y en a un qui a dit, écrit, même les... Finalement, les problèmes et les solutions sont partout les mêmes. Et puis un autre qui a dit c'est le sens de l'histoire, ou qui reprend la formule de Victor Hugo, vous savez, il n'est rien au monde d'aussi puissant qu'une idée dont l'heure est venue. Bon, si on se dit ça, on peut rester chez soi. Les choses avancent. C'est, vous savez, le mot de Cocteau, feignons d'être les organisateurs de ces événements qui nous dépassent. Bon. Donc, éventuellement, on est un peu en avance ou un peu en retard. Bon, ce qui n'est pas négligeable, ce qui n'est pas négligeable hein, dans la marche du monde urbain. Mais ça se passe ailleurs, quoi. Voilà. Et là, moi, je pense effectivement pour répondre à ta question, qu'on voit d'autres choses, peut-être dans des pays qui ont des cultures urbaines, à la fois politiques et techniques plus fortes, ou des contextes aussi très différents, probablement, font qu'il y a des réponses différenciées. Alors, dans le bouquin, il y a le chapitre de Rousseau-Bréal, là, sur des altères stratégies, Boucoulier, oui, effectivement, oui. Voilà, à des villes qui sont en décroissance. Alors, il y en a eu dans l'ex-Allemagne de l'Est, là, les villes, les Schrumpfendenstädte, les villes qui se réduisent. Il y a des exemples où le capitalisme urbain aux États-Unis, ça peut changer tous les 20 ans, quoi. Ça va vite. Nous, on met très longtemps à se rendre compte qu'il y a quand même des problèmes dans l'Est et dans le Nord de la France par rapport à une désindustrialisation séculaire. Et là, ce que disent nos chercheurs, c'est que il y en a qui ont continué à essayer de faire comme si ces territoires pouvaient être encore attractifs. Hein, on fait dans l'attractivité, on essaie de faire venir des touristes, des gens qui ont de l'argent, etc. Et puis d'autres qui disent, mais non, inventons au contraire autre chose. Et en particulier, jouons avec le foncier qui est quasi gratuit pour inventer un autre modèle de ville.
Donc là, effectivement, tu introduis le fait que il y a un certain nombre d'arcs, hein, pour reprendre le vocabulaire aujourd'hui des séries, qui traversent un peu l'ensemble des chapitres. Hein, et effectivement, il y a cette question, finalement, qu'aujourd'hui on pourrait utiliser le vocabulaire de subalternes, enfin, de modèles alternatifs qui font qu'on construit à partir de l'alternance et de l'émergence. Et effectivement, ce papier, je ne sais pas si Gilles veut en dire aussi un peu plus quelque chose sur l'exemple de ces villes qui ont effectivement su développer un agenda plutôt autour de la démolition pour ouvrir de l'espace urbain, de l'espace public même plutôt, de ces villes qui ont des plans d'alimentation avec réussite ou succès. On peut penser à Albi, avec ces villes qui créent leur réseau d'énergie photovoltaïque, qui sont plutôt des territoires qu'on dira en déprise. Donc il y a quand même effectivement, encore une fois, peut-être un objet pour dire que l'ouvrage raconte aussi des histoires, hein, raconte aussi des pas forcément des success stories, hein, c'est pas un ouvrage sur l'économie positive, je ne sais pas comment il faudrait le dire. Hein. C'est encore une fois, on est dans le décortiquage, mais peut-être effectivement sur ces quelques grands items qu'on va essayer là de traverser, de ces grands concepts qui émergent. Peut-être Gilles, quelques éléments sur les théories subalternes, enfin sur cette question subalterne, et y compris parce que, excusez-moi, j'en finis par là, mais vous le dites, je crois que c'est toi Gilles dans l'introduction, ce que tu viens d'évoquer, Jean-Marc, finalement, la question urbaine n'est pas une question subalterne. Hein. Quand on prend le pouvoir des villes, on prend après le pouvoir national, en 77-81. Enfin, on voit bien que ce qu'on expérimente sur les territoires arme peut-être à cette époque, je ne sais pas si c'est toujours vrai, une possibilité de se ressourcer pour mener des luttes plus grandes. Quoi.
Mais sur ces stratégies alternatives ou ces politiques alternatives, je pense qu'il y a une question qu'il faut se poser aujourd'hui, et ça renvoie à ce que tu évoquais tout à l'heure sur la routinisation des agendas. C'est vrai qu'on peut peut-être faire le pari que s'il y a des alternatives qui émergent dans les années qui viennent, ce sera paradoxalement pas forcément du côté des villes qui, en France, par exemple, bénéficie de l'héliotropisme et du thalassotropisme, enfin, en gros, la ribambelle de ville qui va de Rennes à Marseille, qui se situe sur les rivages. Même si ces grandes villes, elles ont tout un tas d'atouts pour elles, elles ont des ressources, elles sont de l'ingénierie, mais elles sont peut-être pas assez confrontées à des problèmes qui suscitent l'innovation et l'invention. Et je pense qu'effectivement, si des nouveaux modèles urbains, justement, qui renoncent un peu à cette obsession pour l'attractivité, cette obsession pour la croissance, cette obsession pour une vision du développement économique centrée sur des groupes sociaux qui seraient prétendument propulseurs ou de la croissance et de l'innovation, les classes créatives, etc. Mais peut-être regarder du côté de ces territoires qui n'ont pas grand-chose, qui sont mal positionnés et qui sont obligés d'inventer avec peu de choses et avec des énergies sociales. Alors, effectivement, dans l'article de Vincent Béal et Max Rousseau, il y a tout un tas de références à des villes d'Est allemande, à des villes de la Rust Belt américaine, où effectivement, on démolit sans reconstruire, parce qu'on n'espère pas effectivement accueillir de nouvelles populations. Et puis, on arrête de penser la ville en fonction des gens qu'on voudrait y faire venir. On fait la ville et on la gouverne en fonction des besoins, des ressources, de ceux qui sont encore là. Voilà. Ce qui permet d'inventer des formes alternatives, mais faisant plus de place à des formes de démocratie locale fondée sur le rôle des assemblées, à des formes de métabolisme urbain davantage valorisant davantage les circuits courts, les ressources locales, etc., etc. On aurait pu rajouter tout ce qui se passe autour des phénomènes des ZAD, parce que je pense qu'aujourd'hui, alors on a une espèce d'esprit d'humeur un peu répressive, réactionnaire au niveau national et notamment à l'Assemblée, qui fait du zadisme l'incarnation de la mauvaiseté politique ou de la marginalité sociale. Mais vous avez regardé dans des magazines, La Maison écologique fait régulièrement des reportages sur ce que les zadistes ont inventé comme système d'habitat et système de production d'énergie fondé sur la sobriété, etc. Donc je pense qu'effectivement, si on veut regarder des formes d'innovation, il faut regarder du côté à la fois des mouvements de contestation de la métropolisation, mais aussi des territoires qui n'ont pas beaucoup de ressources et qui font avec ce qu'ils ont et qui sont donc du coup obligés d'inventer des modèles de développement ou des modèles de vie alternatifs.
Mais qui ne sont pas non plus pour autant des modèles contre l'urbain, hein, parce que ça, je pense que c'est peut-être un des glissements trop faciles de dire finalement. Et là, je pense à un article récent que tu as même retweeté de Martin Vanier, sur le fait que ces modèles qui se construisent pas forcément dans les métropoles qu'on identifie, celles qui sont attractives et compétitives, ne se font pas non plus contre le phénomène d'urbanisation. Enfin, je sais pas si tu veux appuyer ça ou pas du tout, mais qu'il n'y a pas forcément un antagonisme ou une dichotomie simple entre urbain et non urbain. Enfin, c'est pas aussi.
Alors ça, c'est un grand débat qui n'est pas directement abordé dans le bouquin, mais qui est quand même assez, qui est de plus en plus prégnant. En gros, est-ce qu'il faut jeter la ville avec le bain de la métropolisation ? C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, on a effectivement de plus en plus de discours qui s'attaquent frontalement à la question de la métropolisation, mais qui, derrière la métropolisation, critiquent à la fois un modèle de développement écocide, un modèle de développement antidémocratique, post-politique, et qui a tendance à glisser de cette critique, qui a des aspects intéressants et légitimes par certains aspects, vers une espèce d'urbanophobie qu'on trouve par exemple dans les travaux de Guillaume Faburel, qui pose un certain nombre de problèmes, et qui surtout critique avec, en gros, dans la critique de la métropolisation, on va ranger à la fois la critique des modèles de croissance, effectivement, qui sont éminemment critiquable, mais qui va aussi critiquer des formes de gouvernance interterritoriale, intercommunale, qui aujourd'hui sont plus que nécessaires. Parce que on peut d'un côté critiquer des modèles de développement, mais on n'est pas obligé de critiquer le modèle de la ville, parce que la ville, comme dit souvent Jean-Marc Hoffner, si les villes existent, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens ont besoin de se rencontrer parce qu'ils ont besoin d'avoir accès à des ressources qu'ils n'ont pas en propre. Et ces ressources, elles s'échangent surtout dans des zones qui agglomèrent des populations. Et ces zones, ça s'appelle des villes. Alors peut-être qu'effectivement, aujourd'hui, il faut distinguer les villes des métropoles. Mais en tout cas, voilà, on ne va pas se débarrasser comme ça d'un claquement de doigts de la ville. Donc ça ne sert à rien de haïr la ville. Et puis, sur cette question de la gouvernance métropolitaine, effectivement, la gouvernance métropolitaine, aujourd'hui, elle n'est pas forcément très démocratique et désirable. Mais enfin, ça n'évacue pas néanmoins la question de savoir comment on gouverne des grands espaces métropolitains qui vont de Libourne à Arcachon. Voilà.
Et donc, alors, effectivement, après cette question de la culture subalterne, peut-être la question finalement, que Gilles ouvre sur la gouvernance et sur la relation État-collectivité que vous avez un peu esquissé au début de la présentation sur le phénomène de la gentrification, sur la question d'un État plus ou moins présent sous des formes nouvelles. Peut-être, Jean-Marc, un retour d'expérience sur cette question et qui abordait encore une fois aussi bien dans l'article de Dormois, de Belle-Rousseau, cette question du rapport de l'État au territoire, au gouvernement local, c'est quand même une question, et la gouvernance, finalement, assez importante.
Oui, peut-être sous deux angles. Une marge de manœuvre qui peut apparaître a priori paradoxale, c'est Maxime Huret qui en parle sur les modes de transport, mais plus globalement sur les services urbains. L'idée que ce qu'on a pu appeler la dérégulation des services en réseau, qui n'est pas forcément leur privatisation, mais qui est en tout cas l'ouverture à la concurrence, la sortie de monopole, qui pouvait être public ou privé, ouvre des marges de manœuvre par rapport à une offre indifférenciée. On a là, avec des services de mobilité, mais aussi d'énergie, etc., des offres concurrentes qui peuvent être régulées par la puissance publique, si elle en a la volonté et les outils, et qui peuvent donc permettent la construction de politiques publiques spécifiques, différenciées, par rapport au modèle de service public à la française, où, en gros, c'est une gare dans chaque chef-lieu, plan Fraissiné, tout le monde pareil, quoi. Donc, si on sort de cette sorte d'égalitarisme républicain mythique, on a, a priori, des marges de manœuvre au moins potentielles dans ce qui peut apparaître pour d'aucuns comme une sorte de régression finalement du service public au profit d'offres privées. Mais une offre privée diversifiée, finalement, est une variable intéressante pour faire des choix de politique publique différents. La manière dont l'État intervient aussi, là encore peut-être un peu paradoxalement, les collectivités territoriales auraient souvent tendance à dire, en partie à juste titre, l'État ne décentralise pas pour de vrai, et même il recentralise. Mais pour autant, la décentralisation à la française, elle a créé un appétit de nouvelles compétences. Chacun, département, région, commune, interco, veut grignoter quelques compétences nouvelles en ayant le sentiment que ces compétences nouvelles vont lui permettre d'être plus souverain chez lui. Et moi, je pense là qu'il y a un vrai gros sujet. C'est cette croyance en une souveraineté dans son précaré, dans l'introversion institutionnelle. Et moi, j'insiste beaucoup là-dessus aujourd'hui. Je pense que tous les grands sujets de transition, pour faire vite, mais que ce soit les questions de mobilité, d'environnement, d'économie, d'accès aux services, d'inclusion, ne peuvent avoir quelques progrès que si c'est dans la coopération interterritoriale. Le slogan qui a sa raison d'être « chacun prend sa part » pour beaucoup de sujets, sur nos sujets, il est totalement contre-productif. Voilà, ça, c'est un gros sujet, gros problème, mais en même temps, c'est pas compliqué qu'une métropole parle à un département, que des intercommunalités voisines se parlent entre elles, etc. Quoi. On peut aussi être dans un monde où ce n'est pas aberrant que des institutions se parlent pour parler des mêmes sujets, si on sort de cette fausse bonne idée de la répartition des compétences en chevauchement, etc., qui est quand même l'alpha et l'oméga de la décentralisation depuis les lois de fer.
Oui, enfin, la complexité contre la simplification simplette, quoi. Je sais pas comment, voilà. Et peut-être quand même sur la question de l'État, Gilles, peut-être en complément, quand même sur ces gouvernements à distance, quand même, enfin, peut-être redire ce que tu évoques, et notamment, je crois que c'est Rémi Dormois, sur la politique de la ville en particulier, ce rapport un peu étrange où l'État se retire et en même temps il continue à avoir la main parce que les collectivités n'ont pas toujours le choix que de respecter ses choix. Voilà.
Alors, on va rendre à César ce qui est à César, quand même. La notion de gouvernement à distance, on la doit à un collègue qui s'appelle Renaud Epstein, qui a travaillé sur la rénovation urbaine, et qui est le premier à avoir mis des mots sur une espèce de retour un peu rampant de l'État, notamment dans la politique de la ville et à travers une politique spécifique dans la politique de la ville, c'est la rénovation urbaine consistant à détruire et à reconstruire des logements sociaux, mais en se débarrassant des typologies du logement social associées aux grands ensembles des années 60-70. Alors, en fait, ce qui est assez frappant, c'est que la France est quand même un pays bizarre, parce que tout à l'heure, tu parlais de comparaison internationale. Je pense que si on fait un peu de la comparaison internationale, si on se limite à l'espace européen, par exemple, on se rend compte que, quand bien même la France a une réputation qui lui tient qui lui colle à la peau de pays centralisé, c'est quand même un pays où le pouvoir urbain, le pouvoir métropolitain, a sans doute le plus progressé dans les 20-30 dernières années. On n'a pas d'équivalent en Grande-Bretagne, où le pouvoir local est laminé par l'austérité et la recentralisation. En Italie, en Espagne et en Allemagne, on a des villes fortes, mais qui là souffrent plutôt de l'ombre des régions qui exercent des pouvoirs assez forts. Et en fait, en France, on a un État fort, mais des régions faibles, et un État qui a, depuis 20-30 ans, sponsorisé très fortement la montée en puissance du pouvoir urbain. Donc c'est une configuration assez étrange. Bon, alors, État fort, pour parler de la France, bon, ça se discute. Mais bon, en gros, il y a un État quand même qui a des velléités de régulation de la société et du marché, et qui a fait la promotion, depuis la politique des métropoles d'équilibre dans les années 60, de pouvoirs urbains forts. Bon. Donc ça a quand même participé à faire qu'aujourd'hui, je me rappelle d'avoir participé à la conférence, à la Convention citoyenne de Nantes, où les citoyens avaient demandé à être un peu instruits sur la question des pouvoirs des métropoles et des villes en France, où le directeur général des services de Nantes Métropole leur disait bah, « Ok, écoutez, clairement, aujourd'hui, une métropole, ça peut tout faire. Ça peut intervenir en matière de logement, de développement économique, d'enseignement supérieur et de recherche. Donc, très clairement, il y a les ressources, il y a l'ingénierie et il y a les compétences. » Bon. Et puis, en même temps, autre aspect qui est quand même important, alors c'est un peu technique et on n'en parle jamais, mais c'est quand même hyper important, il y a une autonomie fiscale très importante des pouvoirs locaux en France. Autonomie fiscale, c'est quoi? C'est qu'en gros, les pouvoirs locaux en France tirent leurs ressources beaucoup de la fiscalité locale. Bon. Et donc, et ils ne sont pas totalement dépendants des transferts de l'État. Bon. Et ça, ça leur donne des marges de manœuvre qu'on retrouve dans très peu de pays à l'étranger. Et puis en même temps, on a cet État qui essaye de revenir en force, donc qui revient justement avec ce que raconte Renaud Epstein, avec des logiques d'appel à projet. C'est-à-dire, en gros, je ne suis plus présent localement pour faire les politiques à votre place. Par contre, je vous mets en concurrence dans le cadre d'appel à projet pour que vous, collectivité locale, vous fassiez des projets qui vont dans le sens de ce que je veux. Voilà. Donc une méthode un peu sournoise consistant à remettre les collectivités locales dans le rang. Et puis, surtout, l'État a de plus en plus tendance à manipuler les ressources des collectivités locales avec des outils qui, politiquement, sont extrêmement pervers. Parce que la suppression de la taxe d'habitation, par exemple. Alors, tout le monde est content ici. Ouais, super, on n'a plus à payer la taxe d'habitation. Sauf que, par quoi est remplacée la taxe d'habitation pour les collectivités locales? Par des transferts de l'État. Mais n'importe quel élu local vous dirait, bah oui, mais moi, avec mes taxes locales, bah, j'avais une base de ressources dynamiques qui progressaient parce qu'il y avait l'urbanisation. Maintenant, je suis dépendant de plus en plus des transferts de l'État. Voilà. Et pourquoi l'État fait ça? Parce que l'État, en France comme ailleurs, est entré depuis les années, depuis le début des années 2000, mais avec une accélération forte depuis la crise financière de 2008, dans des politiques d'austérité dont on ne parle pas beaucoup en France, parce qu'on n'en ressort pas encore tout à fait les effets, mais qui ont, encore une fois, laminé les pouvoirs locaux en Grande-Bretagne, et qui consiste à dire, bon, pour réduire les budgets, les déficits publics que j'ai creusés en sauvant les banques qui s'étaient aventurées dans des placements douteux, eh bien, j'ai racheté de la dette privée, j'en ai fait de la dette publique, et à qui je vais faire payer ça? Ben, aux services publics et aussi aux collectivités locales, par une manipulation de plus en plus systématique des ressources des collectivités locales. Donc ouais, on a un truc assez ambigu, où à la fois il y a une montée en puissance très claire des pouvoirs urbains, mais contrariée par l'imposition d'une logique austéritaire par l'État.
Oui, alors c'est vrai que cette question, finalement, qu'on n'associe pas aussi souvent ou aussi naturellement entre pouvoir local et austérité, enfin, et logique austéritaire, diraient certains. C'est vrai que c'est assez présent là aussi, hein, encore une fois, question subalterne, question de gouvernance, question effectivement financière et économique. Je crois que tu cites Krugman aussi à un moment, enfin, sur ces questions financières. Pourtant, c'est Brigitte Fouillant hein, qui, elle, a un regard peut-être, et c'est pour dire que l'ouvrage n'est pas forcément consensuel, hein, qu'il peut y avoir des discussions entre les articles ou des points de vue qui ne sont pas tous convergents. Hein, c'est pas un, pas un agenda hein, qui est dans l'ouvrage, hein, c'est bien une discussion. Brigitte Fouillant est peut-être un peu plus ouverte à l'idée que la rareté génère l'imagination. Enfin, je ne sais pas ce que... Comment est-ce que Jean-Marc, parce que l'école, c'est l'école urbaine, puisque Brigitte Fouillant est la directrice exécutive, enfin, je ne sais pas comment on dit, de l'école urbaine, et que tu occupes aussi des responsabilités, si tu dois endosser ce qu'elle écrit, enfin, ou du moins, si
Brigitte
tu veux discuter.
Oui, Brigitte Fouillant, mais dors-moi d'une certaine manière aussi. Alors, il y a cette idée qu'on a tous en tête, effectivement, que l'austérité, le moindre argent oblige à la créativité. Voilà, ça, on peut le comprendre. Brigitte Fouillant, elle ajoute le fait qu'on est aujourd'hui dans un contexte où on n'est plus tellement à rechercher les grands projets, où on est plutôt sur, entre guillemets, du bricolage malin, en mobilisant des acteurs différents, tout ce qu'on met trop vite, mais l'expression quand même intéressante, le nom d'urbanisme tactique, on fait de l'expérimentation. Alors, si on veut se moquer un peu, on parle de l'urbanisme de la palette, hein, on fait des trucs un peu low cost, là, avec trois bouts de planche et évoque la galère, mais c'est cette idée, alors plus structurellement, peut-être qu'on a plus besoin, et ça c'est un sujet embêtant et compliqué, plus besoin de fonctionnement que d'investissement. Voilà. De fonctionnement au sens d'une intelligence organisationnelle, d'une mobilisation d'acteurs. C'était le grand problème de la politique de la ville. Est-ce qu'on paye des associations et des animateurs ou est-ce qu'on paye de la destruction et de la reconstruction? Et ça, on peut se poser cette question pour beaucoup de sujets. Les questions de mobilité, est-ce qu'on fait de l'infrastructure lourde, Grand Paris Express, RER métropolitain, ou est-ce qu'on met de l'argent dans des start-up qui inventent le covoiturage de l'an 2030 voilà. Et là, parce que l'austérité, elle est beaucoup dans les budgets de fonctionnement, elle est moins dans les budgets d'investissement. Quand on voit les plans de relance, là, ça y va, quoi. Hein. Ça y va, tout le monde se dépêche de ressortir un vieux projet pour le mettre en avant. Donc ça, je pense que c'est un jeu intéressant à penser pour l'avenir dans des marges de manœuvre qui seraient plutôt sur comment on fait fonctionner, on est dans la gestion, dans le quotidien qui devient stratégique et qui implique des modes d'intervention très, très différents, qui ne sont pas sans coût, mais qui sont sur... Je dirais sur d'autres lignes budgétaires.
Alors, deux dernières questions. J'entends une avant-dernière, dont je pense qu'elle va tomber à plat, mais j'avais envie de la poser. Et la deuxième, je pense que là, pour le coup, vous serez plus bavard. Vous commencez tous les deux par citer des livres. Gilles, tu commences par Franzen, et toi, Jean-Marc, tu commences ton papier par Dudek. Alors, je reprends cette citation, je crois que c'est de Gensou que cite... souvent Pierre Rosanvallon sur la classe ouvrière en disant que avant d'avoir une représentation politique, elle a eu une représentation avant d'avoir une représentation politique, elle avait une représentation poétique à travers le roman au 19e, à la fin du 19e. Quel rapport vous entretenez? Parce que là, on est très technique, c'est pas très poétique, hein, même si c'est bien écrit, bon, c'est pas un roman. C'est pas non plus de la non-fiction, enfin bon, vous avez tenté, mais voilà. Est-ce que y a besoin aussi d'imaginaire et donc de peut-être du roman et de la vraie fiction pour est-ce que ça vous inspire les techniciens ou pas? Donc c'est celle qui tombe à plat, hein. Vous avez le droit de passer vite, mais
Alors moi j'aime bien mettre des citations, des exergues. En montrant que beaucoup a déjà été pensé, donc il ne faut pas réinventer le monde, et qu'effectivement, pour le coup, sur la question urbaine, au-delà de ce sujet spécifique, bon, la littérature est toujours en avance sur l'expertise, et qu'elle est par ailleurs un accompagnateur. On est aussi dans l'essence, dans l'émotion, hein, quand on parle urbanisme et urbain. Donc, oui, il faut. Alors, il y a quelques auteurs, évidemment. Tout étudiant en urbanisme cite Georges Perec à chaque chapitre. Mais il y a des formulations géniales pour dire des choses finalement assez compliquées. Voilà, donc, oui, trois fois oui.
Oui, bah déjà, je pense que l'un et l'autre, on aime bien faire les malins. Donc, voilà. Bon, alors, je parle pour moi. Donc, effectivement, sortir une petite référence littéraire. Puis voilà, moi, je suis à Sciences Po, donc hashtag culture G, quoi. Il faut quand même. C'est important. Non, mais alors, peut-être plus sérieusement, on est quand même sur des domaines d'études l'urbain qui, justement, est autant nourri par des lectures sérieuses ou scientifiques que par des films, des romans dans lesquels la ville est pas seulement un décor, mais souvent un acteur, quoi. Donc ça s'y prête bien. Et puis, voilà. Il y a aussi dans des œuvres de fiction des éléments d'analyse qui sont extrêmement puissants. Enfin, j'ai vu que Thierry Aublet était dans la salle, mais je ne sais pas ce qu'on peut dire de la possibilité d'enseigner la sociologie urbaine après The Wire, quoi. Enfin, est-ce que c'est encore possible ? Voilà. Dernier bouquin, enfin, c'est peut-être pas le dernier, mais Les Furtifs de Damasio nous parle de la Smart City. Bon, je passe oui, non, runner, etc. Donc, oui, c'est. Et puis, en plus, je pense que. Enfin, ça, quand ça, j'avais appris ça en faisant de la prospective à la Datar. C'est-à-dire que je pense que la vision qu'on peut avoir des évolutions urbaines est quand même très informée par des visions prospectives, beaucoup nourries par la littérature d'anticipation. C'est-à-dire que je pense que la lecture qu'on fait des phénomènes urbains actuels est largement nourrie par des visions du futur qui sont nourris par des films et des œuvres de fiction. Donc voilà, je pense qu'il faut pas négliger ces apports-là dans notre imaginaire.
Dernière question et auquel vous répondez rapidement, juste un mot l'un et l'autre. Tu disais, Jean-Marc, ouvrir l'éventail des problèmes. Donc ce serait quoi pour vous les sujets non gouvernés, puisque c'est un peu sur ça que tu conclus et que vous voudriez ouvrir comme champ pour des marges de manœuvre de l'action publique locale. Ce serait quoi les prochains chantiers à ouvrir, en deux mots, si vous en avez un, enfin, ou l'un des deux. C'est finalement celle-là qui va tomber à plat.
Les questions non gouvernées. Alors, il y a deux semaines, il faisait très, très chaud. Et la question du rafraîchissement en ville est quand même une question qui est absolument pas gouvernée. Ce qui me frappe à Bordeaux, c'est qu'il y a à peu près deux tiers des piscines, j'exagère peut-être, qui sont publiques, qui sont fermés pour des raisons d'entretien, de réfection, etc. On a par ailleurs une espèce de démultiplication des piscines privées au sens chez les gens, et puis même des piscines privées collectives, mais à gestion privée. Et on pense pas du tout, enfin, bon, on pense quand même effectivement à la question du rafraîchissement par le végétal, mais la question du rafraîchissement par l'eau, et l'eau publique par exemple, je trouve qu'elle est absolument pas posée, absolument pas développée. Alors que, par exemple, il y a des villes comme Montréal qui ont pourtant un été court, mais très chaud, qui ont démultiplié les jeux d'eau, les pataugeoires, etc. Donc, voilà, s'il y avait quelque chose à gouverner, ce serait, comme disait le président Mao, faire fleurir 1000 miroirs d'eau à travers la métropole.
Donc, est-ce que tu veux laisser cela à la conclusion, ou toi aussi tu veux y aller, ta petite citation ?
Alors, les agences d'urbanisme servent souvent à donner à voir, justement, pour tenter de mettre à l'agenda des sujets. Pour nous, très modestement, par exemple, on a fait une carte sur la métropole des points d'eau qui montre qu'il n'y en a pas beaucoup, qu'il y en a qui ne marchent pas et qu'effectivement, il y a de quoi faire. Voilà, moi, ce qui n'est pas gouverné, entre mille autres choses, c'est moi ce que j'appelle il n'y a pas de politique du quotidien. Du quotidien et en particulier des rythmes de vie au quotidien. Voilà, cette affaire de rythme qui organise nos vies, qui organise complètement nos vies. De temps en temps, il y a un bureau des temps qui s'installe quelque part, mais ça ne prend pas, la mayonnaise ne prend pas en termes d'action publique. Et pour autant, c'est à la fois extrêmement important pour structurer l'évolution de nos modes de vie, Et ce serait aussi possiblement un outil d'action, par exemple, pour les questions de mobilité, tout à fait intéressant.
Très bien, merci à tous les deux, Gilles Pinson, Jean-Marc Hoffner, et donc qui dirigeait cet ouvrage, L'impossible pouvoir local, des nouvelles marges de manœuvre pour l'action publique urbaine. Merci beaucoup.